L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires », podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques, français ou internationaux. Engagé dans une démarche de promotion de l'économie sociale et solidaire, en tant qu'économie défricheuse des nouvelles questions de société, innovante sur les problématiques sociales et environnementales, l'Institut Montparnasse donne aussi la parole à la société civile, aux acteurs des territoires, professionnels et citoyens engagés, afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. Pour les 70, 71, 72 et 73e épisodes du podcast Bâtissons des futurs solidaires, rendez-vous à l'Université de Haute-Alsace autour de la question de la réciprocité dans le soin, de l'alimentation à la santé. Rencontre avec ceux qui mènent des expériences, des apprentissages coopératifs, des observations et études au service du faire commun. Bonjour Guillaume Gutleben, vous êtes directeur du Centre local de santé Léon Blum. Il s'agit d'une association dénommée Agir Ensemble pour notre santé, créée il y a une quarantaine d'années par 4 médecins convaincus de la nécessité d'un centre de santé permettant aux plus précaires de ne pas être en rupture de soins, et cela notamment en ne limitant pas la consultation à 15 minutes. Il y a la question de la durée qui est importante. En 40 ans d'existence, l'association a forcément évolué. Alors, pouvez-vous nous dire quels ont été les grands faits marquants de ces 40 années ?
Alors, le premier principe fondateur du centre de santé, c'était que les patients n'aient pas l'obligation d'avancer les frais. Et donc, il a pratiqué avant l'heure, avant que ça soit une mesure de politique publique, le tiers payant. Ça permettait à des familles qui avaient plusieurs enfants de ne pas se limiter dans les soins et de pouvoir leur faire consulter un médecin généraliste. La première difficulté qui a été rencontrée, c'est le temps nécessaire. Quand une population a des difficultés, peut avoir des appréhensions à parler à un médecin, peut ne pas parler ou maîtriser le français pour expliquer un problème de santé. Donc ça prend plus de temps que pour une consultation lambda. Et donc ça coûte plus cher. Et la première difficulté, ça a été donc de trouver un modèle économique qui permette à ce centre de fonctionner. Pendant un temps, il a été fortement soutenu par la collectivité, la ville de Belfort. Et puis ensuite, voilà, le conseil d'administration a jugé absolument nécessaire de penser un modèle économique et donc de limiter les consultations à des durées très précises en fonction des motifs. Et ça a eu pour impact de peut-être faire partir ou de dissuader les médecins plus militants, qui avaient une fibre, on va dire, sociale, d'entraide, et de conserver des médecins qui étaient prêts, effectivement, à travailler avec des objectifs d'un nombre précis de consultations.
D'accord, mais sans perdre avec la philosophie des lieux, qui était quand même une attention particulière aux patients qui arrivent et qui parfois ont plus besoin de temps que d'autres.
L'ADN reste le même. Il y a une dimension sociale. On est dans un quartier d'habitat populaire. On a plus d'une centaine de nationalités. Et il y a des membres de l'équipe qui sont en capacité eux-mêmes de traduire, par exemple. Donc il y a un souci quand même d'adapter les soins à chaque personne qui franchit les portes.
Alors, le départ que vous évoquez a été concomitant avec un plan d'expérimentation nationale. Les structures d'expérimentation coordonnées participatives, la loi de sécurité sociale 2018, dans lequel la dynamique, en tout cas le centre, s'est inscrit. Qu'est-ce que cela vous a permis ?
Alors cette expérimentation, elle finance tout ce qui est en dehors du médical. Quand on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui empêchent de profiter pleinement d'un parcours de soins, ça peut être des problématiques de famille, ça peut être des problématiques de langue, ça peut être la nécessité d'avoir recours à des soins psychologiques. Voilà. Donc cette expérimentation nous a permis de recruter, je fais la liste, une psychologue, une animatrice en santé, une médiatrice en santé, et puis une coordinatrice qui suit particulièrement des personnes en situation de vulnérabilité. Et ça, c'est des choses qu'on avait sous les yeux auparavant, mais on n'avait personne pour positionner et proposer un accompagnement de qualité.
Donc on peut dire que vous êtes passé d'un centre polyvalent à un centre communautaire. Est-ce que ce sont les bons mots ?
Alors l'expérimentation, elle s'appelle santé participative. Il y a un grand débat entre le participatif et le communautaire. Mais l'idée, c'est que la santé communautaire, c'est d'agir au plus près de ce que vivent les gens dans leur vie quotidienne, là où ils habitent, et de tenir compte de ces déterminants sociaux, si on peut le dire simplement, pour comprendre les difficultés qu'ils vivent et qu'ils ressentent.
Aujourd'hui, cette nouvelle loi remonte à une dizaine d'années, hein, si mes comptes sont bons, c'est ça ?
La loi sécurité sociale, oui. C'est 2018.
D'accord, donc bon, voilà, une petite, toute petite dizaine d'années, 6 ans. Est-ce que l'équilibre est trouvé ou vous en êtes avec ces questions-là ?
Alors, pour nous, l'expérimentation, elle a à peine 2 ans de recul. On l'a démarré en 2022, donc une mutation d'équipe. Vous imaginez que sur une structure qui a 40 ans d'existence, les habitudes, elles ne se changent pas du jour au lendemain. Donc, on est bien conscient qu'on est à la croisée des chemins et ça se fait à une période où il y a de moins en moins de médecins généralistes. Et donc, on est dans un paradoxe. On aimerait, parce qu'on a plus de professions différentes, prendre du temps pour accompagner correctement les gens. Et en même temps, le nombre de patients qui ont besoin d'accéder à un médecin traitant est grandissant. Donc on est constamment dans cette tension à essayer de trouver le juste milieu.
Alors tension, c'est sans doute le bon mot. Vous l'avez dit, et je le répète, cette équipe, elle est structurée aujourd'hui de médecins. Ils sont au nombre de 3, de 5 administratifs, d'une médiatrice en santé, d'une animatrice en santé, qui fait notamment le lien avec les autres institutions ou instances du quartier, une psychologue, une assistante en santé qui, elle, aide, assure le suivi des rendez-vous médicaux, par exemple, pour des personnes qui auraient un petit peu du mal à enchaîner les rendez-vous, notamment auprès de différents spécialistes. Qualitativement, on a parlé de l'aspect financier, qualitativement, alors vous, ça fait 2 ans que vous êtes là, est-ce que vous ressentez déjà, du fait de cette équipe, de cette présence, des points positifs, des bienfaits,
des choses qui encouragent à continuer.
Alors voilà, très bien, des choses qui encouragent à continuer, c'est parfait, dit comme ça.
La première chose, c'est un changement d'atmosphère. Il y a 2 ans, on était en sortie de Covid, les gens étaient un peu méfiants, y avait entendu beaucoup de choses. Pouvait avoir des appréhensions sur des tas de moments dans la vie. Donc la première chose, c'est déjà que la quantité de gens disponibles chez nous pour ne serait-ce que dire bonjour, que d'accueillir les gens, que de prendre un temps, que de discuter, ça a un impact positif sur un apaisement. Les gens sont plus sereins, se sentent accueillis. Ça, c'est directement mesurable dans l'ambiance dans laquelle on arrive au centre de santé. Puis ensuite, il y a paradoxalement ce centre, il était présent dans un quartier, mais avec peu de liens avec le quartier.
C'est-à-dire, pourquoi ? C'était pas la population du quartier qui le fréquentait, si ?
Si, c'était la population du quartier, mais dans un quartier, il y a des associations, c'est intéressant d'aller voir comment les gens vivent, etc. Et le centre était concentré jusque-là sur son activité de consultation médicale. Et ce projet, il nous permet de faire le lien avec la vie des gens et ce qu'ils vivent au quotidien. Et on se rend compte qu'on les soigne mieux si on les connaît mieux dans leur vie quotidienne. Ça paraît tout bête de le dire, mais on le redécouvre.
Donc il faut sortir, aller hors des murs. Est-ce que c'est ce que vous faites ?
Alors on le fait par plein d'initiatives. On a un groupe de balade une fois par semaine où des gens qui se sentent seuls prennent plaisir à se retrouver et à découvrir, à aller dans des lieux de la ville dans lesquels ils ne vont jamais, franchir le pas d'une association pour s'inscrire au Resto du Cœur parce que quelqu'un connaît. Déjà, et donc aide à faire la démarche pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est des choses qui sont des rendez-vous réguliers. Et puis, on a aussi des cafés des parents dans les écoles ou dans les maisons de quartier, qui sont des lieux où les parents ont plaisir à échanger leurs préoccupations. Ils se sentent moins seuls. Ils se disent finalement, je culpabilisais sur ce truc-là, j'ai l'impression de ne pas bien faire, de ne pas bien soigner ou élever mon enfant. Et je me rends compte qu'on a tous les mêmes difficultés. Et puis, il y a 2-3 trucs, c'est intéressant quand on y réfléchit à plusieurs pour trouver comment avancer.
Et alors, du fait d'écouter cette parole qui se dit à l'extérieur, est-ce que ça vous permet, à vous, d'affiner votre fonctionnement, vos réponses, lorsque vous êtes au sein de votre centre de santé ?
C'est un pari, et on a développé beaucoup plus de co-consultations, c'est-à-dire des consultations où il n'y a pas que le médecin. Il peut y avoir le médecin et une orthophoniste, le médecin et une assistante, le médecin et une psychologue, pour que ça ressemble un peu plus à une conversation d'égal à égal. Et ça, mine de rien, on est incité à le faire quand on regarde comment les gens discutent entre eux en dehors du centre de santé, dans le quartier. Et ils le font souvent à plusieurs, pas juste à 2. Et la santé communautaire, c'est aussi travailler énormément dans le collectif et croire que le collectif, il a ses vertus.
Donc tout ceci est extrêmement positif, malgré des moyens, vous l'avez dit, qui manquent.
Alors les moyens manquent parce qu'on aimerait avoir plus de médecins, mais tout le monde en espère plus. Et puis on aimerait aussi que cette réponse, ces moyens qui nous ont été proposés dans le cadre d'une expérimentation, ils entrent dans le droit commun. C'est un vrai enjeu que d'autres structures que la nôtre puissent en bénéficier. parce qu'on se rend compte que c'est des métiers du lien et que la première chose pour aller bien et pour être en santé, c'est, on utilise souvent la formule, être bien dans son corps, dans sa tête et avec les autres. Et donc, avoir des métiers du lien reste fondamental pour nous.
Alors justement, avec les autres, le bouche à oreille fonctionne-t-il? Est-ce que les fidèles, ceux qui étaient là au cours des 30 premières années de l'existence de ce centre, viennent toujours ou envoient toujours leurs enfants, par exemple? Est-ce que vous avez de nouveaux patients qui ont été intéressés par la démarche?
Alors des fidèles, oui. Parfois, on soigne jusqu'à la troisième génération, c'est-à-dire les petits-enfants des premiers patients qui ont fréquenté le centre il y a 40 ans. Donc il y a une fidélité, un attachement à l'histoire du centre. Et puis le bouche à oreille, il fonctionne, mais il a paradoxalement aussi pour effet d'éclairer qu'il n'y a pas suffisamment de lieux comme le nôtre. Je pense notamment aux soins d'accompagnement psychologique. C'est une forte demande et on a des associations de quartier, des habitants, des écoles qui nous interpellent pour des enfants ou pour des parents qui auraient besoin d'accéder à un soin psychologique. Et là encore, on n'est pas sur le lien, mais on est sur la parole. Comment, en nommant des choses, ça nous aide à prendre conscience, à savoir qu'on a un pouvoir pour agir dessus et à ne pas se laisser abattre par les difficultés du quotidien qui parfois nous rattrapent.
Alors, petite question subsidiaire. Est-ce que pour vous, le fonctionnement tel que vous le pratiquez aujourd'hui, avec cette équipe pluridisciplinaire, cette horizontalité, cette ouverture vers l'extérieur, qui ramène aussi des informations de l'extérieur vers l'intérieur, est-ce que ce modèle est duplicable, puisque tout le monde, beaucoup, cherche le modèle le plus ajusté, peut-être le plus pérenne aussi?
Alors, ce n'est pas un modèle dans le sens où ça n'invente pas ce modèle-là, il n'invente pas des médecins. Donc face à la pénurie de médecins, ce n'est pas la réponse. Mais face à plein d'autres choses, de dysfonctionnement de la société, de manque qu'on constate chez nos concitoyens, une fois qu'on y a goûté à cette santé communautaire, on a du mal à imaginer comment on pourrait soigner autrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas soigner un individu si on ne sait pas dans quelle famille il vit, parce qu'il est en lien avec cette famille, qu'il s'entende avec ou qu'il ait des difficultés. Ça reste un être social très en lien avec les autres. Et puis, ça nous permet aussi de relativiser la part de la médecine pure, parce que la santé ne se résume pas à la médecine, elle est liée à un équilibre global qui évolue constamment et avec lequel chacun doit composer. Et je crois qu'une fois qu'on a goûté à cette approche de la santé communautaire, on n'a plus envie de soigner autrement.
Je ne connais pas le lieu où vous travaillez. Quelle est la population? Ce sont des jeunes, ce sont des personnes âgées, ce sont des personnes issues d'immigration, des cadres, qu'on ait un petit peu une photographie, c'est important.
Alors le quartier, c'est le quartier le plus populaire de la commune de Belfort. Une centaine de nationalités représentées, ou nationalités actuelles ou d'origine en tout cas. 44 ans de moyenne d'âge, mais ça va des nouveau-nés aux personnes très âgées. Donc il y a une très grande diversité culturelle. On a souhaité aussi garder une ouverture. Il n'y a pas que des Belfortins qui viennent fréquenter. Puis certaines personnes ont quitté le quartier, mais continuent de le fréquenter.
Pour vous, il y a une nécessité. Vous avez dit que c'était un modèle qui vous semblait idéal. Je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas opportun. Et que dès lors qu'on y travaillait, c'était compliqué d'imaginer autrement. Est-ce qu'on en parle suffisamment? Est-ce que c'est suffisamment connu? Il y a la question de la duplicabilité, mais il y a aussi la question de la connaissance, de l'information, de la communication.
Parmi les gens qui travaillent dans la santé communautaire, on est parfois un peu réticent à se dire que c'est reproductible de manière un peu mécanique. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont à adapter à partir du lieu dans lequel ça émerge, ces projets. Ça veut dire prendre le temps de le faire. Ça veut dire replacer le corps médical dans un ensemble plus vaste, parce que la santé, c'est bien plus vaste que la médecine. Et puis, c'est aussi prendre le temps de travailler avec la population qui est directement concernée. Là, notre défi dans le projet où on en est, c'est vraiment de faire alliance avec la population, qu'elle ne vienne pas simplement consommer des services qu'on lui propose, même si, évidemment, nous, on fait tout pour que ces services soient accessibles et simples d'accès pour eux. Mais on souhaite aussi qu'ils se sentent concernés par l'organisation. Ça veut dire s'impliquer, prendre des responsabilités, venir dans notre comité des citoyens pour donner leur avis, tenir un stand pour en parler. Enfin, voilà. Il y a une logique d'implication dans la santé communautaire et on souhaite qu'elle ne soit pas sacrifiée. Ça, ce n'est pas reproductible.
Très bien. Mais écoutez, merci pour cette précision. Merci pour cet échange passionnant. Bonne continuation. Merci à l'Université de Haute-Alsace. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.